Gilles Proulx animait le journal du midi à la défunte station CJMS. Que de souvenirs pour lui, j'imagine. Merci d'être là aussitôt. Gilles, bonjour.
Bonjour, mon cher Paul. Ça me fait plaisir et pour moi, ce n'est pas tôt. C'est l'heure du coq. Il n'y a pas de doute.
Gilles, on a peine à imaginer que cet été va marquer le 30e anniversaire de cette fameuse crise d'Oka 1990.
Alors là, on va sortir les tam-tams et puis les panaches. On va faire des danses pour rappeler comment ils ont été courageux. Puis avec le drapeau Warriors, qui est devenu le symbole de toutes les nations amérindiennes en Amérique, où il y a là-dedans un noyau de pègreux qui vont faire en sorte qu'ils vont parler au nom de toutes les nations et qui ont bravé les méchants Québécois, ces anciens Canadiens qui faisaient peur à l'époque de la Nouvelle-France.
Gilles, je veux pas établir directement un parallèle parce que, en fait, les motifs ne sont pas les mêmes, mais il y a quand même des parallèles intéressants qu'on peut faire. Actuellement, les manifestants sont très peu nombreux. En 1990, on oublie trop souvent que la crise a été littéralement prise en charge, non pas par, je dirais, les chefs héréditaires Mohawks, qui étaient, disons, un peu plus modérés, on se rappellera de Mme Helen Gabriel, mais l'arrivée dans le conflit de ce qu'on appelait les Warriors.
Exactement. Prenons les États-Unis, les gars de Vegas notamment, qui prennent en charge, puis on va vous montrer, puis nous autres, on s'est battus. Faut pas oublier qu'ils ont été culbutés aussi aux États-Unis. Hein, il a fallu Marlon Brando pour, dans le cas d'une de leurs communautés, qui s'en mêle, et chez les Navajos, si je me souviens bien. Alors, fort de cette réputation-là, ils prennent le contrôle, un peu comme les Américains à la Deuxième Guerre, quand Churchill n'en peut plus, puis il n'y a pas assez de monde, puis que les Américains décident d'embarquer après Pearl Harbor. Eh bien, ils prennent la charge, puis avec l'argent, puis les moyens. Et la crise est beaucoup identifiée à eux. Mais à cette époque, faut quand même admettre que c'était un problème territorial. C'était peut-être plus grave qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est véritablement de l'infantilisme. Des gens qui, dans leurs chaises hautes, sont gâtés par le système, savent pas quoi faire parce qu'ils sont inertes et trouvent des occasions de manifester en solidarité avec quelques douzaines de leurs confrères en Colombie-Britannique qui ont rien à voir. Alors, l'alternative, ça serait quoi? Quand j'entends le ministre responsable, député de Verdun, ça me fait bien rire. Encore une fois, la queue entre les deux jambes, les fesses serrées. Dès qu'on prononce le mot « Warriors » et « Mohawk », on prend peur. Quelle sorte de lâcheté dont nous faisons preuve. Alors, il va dire, on va discuter, on n'a pas l'abri, puis c'est pas facile. L'alternative, puisqu'on est à l'heure de la modernisation des systèmes ferroviaires, ça sera de déménager, mais on cède pas pour autant. On reprend les activités du système ferroviaire, mais en attendant ou parallèlement, ça sera de déménager la voie ferrée pour tâcher d'éviter de passer dans ces réserves ou ces territoires dépendants. Parce qu'à Oka, c'est pas une réserve, contrairement à ce qu'on nous a fait croire. C'est un territoire qui avait été cédé par les Sulpiciens. Mmh. On est en 1717, en plein régime français sous Louis XIV. Et puis, les Sulpiciens décident de déménager à Oka. Ils leur cèdent une belle terre, mais c'est pas une réserve. Ils leur cèdent un territoire. Mais voilà qu'après les Patriotes et 1840, Lord Durham avait proposé le fusionnement du Haut et du Bas-Canada, le Canada uni. Et là, ils rentrent. Évidemment, après, les Patriotes ont fait rentrer des immigrants pour angliciser le Québec. Et là, il y a des terrains à vendre. Et c'est là que les Sulpiciens prennent goût, en 1840, à parceler le territoire de la Pinède, notamment. Et là, vendre une partie et rapetisser leur territoire, qui, encore une fois, n'est pas une réserve. Là-dessus, ils ont été passablement trimballés, il faut l'admettre. Et ils n'ont pas tout à fait tort de pouvoir revendiquer un rappel qui est oublié par non seulement les Sulpiciens, mais par les autorités canadiennes du temps, ou britanniques, pardon, parce que les réserves vont être créées sous le régime britannique. Je me souviens pas, je pense que c'est le gouverneur Gage qui décide de créer des réserves. Mais dans ce cas-là, à Oka, il s'agissait plutôt d'un territoire. Bon, et puis par la suite, on n'a jamais trouvé une solution à ces Mohawks-là qui, dans le fond, faut avoir une sympathie pour eux aussi, parce qu'ils ont vécu éparpillés, contrairement à d'autres nations, où ils sont concentrés dans un territoire avec une réserve, alors que là, ils sont éparpillés en Ontario, au Québec, à Oka, à Kanawake, ils étaient à la Prairie. Tout ça, ces gens-là ont été amenés ici à la faveur du fait que l'armée française les capturait. En capturait parce qu'ils venaient dans nos terres, ils acceptaient pas la Nouvelle-France. Alors, ils venaient faire des razzias, ils vont aller à Sorel, ils vont à Trois-Rivières, un peu partout. Alors, on en capture, et là, on les concentre à la Prairie d'abord. De la Prairie, on les déménage au Sault Saint-Louis, qui est devenu Kanawake. Et puis après ça, les Sulpiciens en pleine charge au Sault Récollet. Et c'est de là, du Sault des Récollets, ceux-là, là, ceux de Oka, qui vont être déménagés à Oka.
Mais Gilles, il y a toujours eu... Moi, je me rappelle, parce que mon grand-père avait un chalet à proximité du Gode. Il y a toujours eu beaucoup de tensions à Oka. Et ce qui avait mis le feu aux poudres en 1990, c'était, rappelle-toi, le maire Jean Ouellet qui voulait aller de l'avant avec l'expansion du golfe. Il voulait que le golfe d'Oka, on ajoute 9 trous et un projet domiciliaire également. Et ça, ça avait été à l'origine de la crise de 1990.
Exactement. Ça répète exactement ce que les Sulpiciens ont fait. Les Sulpiciens avaient ce territoire-là, ils l'ont cédé avec la faveur du roi, et puis on leur cède le territoire, mais on ne le consacre pas réserve. Alors les Sulpiciens gardent le droit exactement comme le maire Jean Ouellet, il répète l'idée tout d'un coup, je ne sais pas s'ils prennent goût aux affaires, mais ils vont parceler leur territoire et vendre des terrains. On est en 1840. Et c'est là que les Mohawks s'aperçoivent bien, ou les Iroquois s'aperçoivent bien qu'ils ne sont que trimballés. Ils n'ont pas de territoire, on n'a pas désigné. Mais c'est très difficile de désigner un territoire immense pour eux, dire c'est une réserve, et à l'intérieur de la réserve, vous avez vos droits, comme à Kanawake. Kanawake est la seule réserve dans un milieu urbain en Amérique du Nord, faut pas l'oublier. Et ils ont donc pas une réserve en tant que telle, parce que c'est une grosse nation, c'est la plus grosse nation amérindienne au Canada, par rapport à toute autre nation indienne, et ils vont vivre éparpillés. Alors, comme ils sont pas rassemblés en tant que tels. Jean Chrétien avait eu une alternative intéressante en 1972, il est ministre des Affaires indiennes, et c'était de convertir les réserves en municipalités. Ouais. Il dit, vous, un maire, on va vous donner une juridiction municipale. Mais là, il relevait de Québec, alors il n'en était plus question. Dès qu'on prononce le mot Québec, ils ont une haine viscérale et ancestrale, ignorante, encore une fois, parce qu'ils ont été fanatisés par un régime, le régime britannique, à l'égard de tout ce qui est français ou francophone. Alors, ils ont une haine viscérale à l'égard du Québec, qu'ils l'appellent le « little government ». Je te donne un autre exemple. Tu avais raison tout à l'heure, tu disais que ça a commencé bien avant, au mois de mars.
Oui.
Et ça a même commencé un peu avant, l'automne d'avant, lorsque il y a... Je me rappelle, moi, j'avais bien en honte, j'avais été le premier à aborder cette question à connotation raciste, carrément. Un employé de la compagnie Labatt, avec sa voiture, était rentré dans la réserve. À ce moment-là, on passait dans la réserve comme si rien n'était. Puis il s'était fait encercler avec des gars avec des carabines qui tiraient des balles autour de sa bagnole. Il y avait eu une peur bleue. Ça a été le premier incident. Il y a eu par la suite la mort d'un Indien lorsque la Sûreté du Québec avait autorité sur la réserve de Kanawake. Et puis là, il y a un Indien qui s'est fait tuer. Je me rappelle pas du nom du policier en question, mais il avait eu une peur bleue parce qu'il était tout seul dans sa bagnole. Il a appelé pour avoir de l'aide, ça a pris énormément de temps, là, les Mohawks ont encerclé. Ça avait failli revirer à la tuerie. Et par la suite, René Lévesque va aller dans la réserve pour essayer de baisser la température. Si un gars qui était capable d'affronter tout le monde, c'était bien René Lévesque. Et il leur avait dit, écoutez, on comprend votre douleur, etc., puis votre spoliation, vous l'avez connue, je vais vous donner un hôpital, puis il leur donne certains droits fiscaux, sans doute. C'est sûr qu'on déteste le petit gouvernement du Québec, mais on déteste pas les petits chèques qui rentrent. On leur donne un hôpital. Ça a pas pris 24 heures. La haine les réalimentait. Ils éparpillaient des T-shirts avec la tête de René Lévesque, puis une flèche bord en bord de la tête. Fait qu'on voit là qu'il y avait comme une espèce d'escalade de haine jusqu'à ce que ça éclate avec la Pinède quand on a trouvé cette raison. Hélène Gabriel, qui est décédée, je crois, hein, il n'y a pas tellement longtemps,
ouais.
Elle était venue même à mon micro.
Oui, mais elle était prisonnière des Warriors qui s'étaient emparés de la crise. Et la crise va dégénérer le 11 juillet quand la Sûreté du Québec décide une opération ratée de démantèlement des barricades. Et c'est cette journée-là que le caporal Marcel Lemay, 31 ans, jeune père de famille, est frappé d'une balle. Il meurt. Et le 11 juillet, en même temps, on commence à bloquer le pont Mercier.
Exactement. On électrise l'opinion. Moi, j'étais en Belgique quelques jours auparavant. Je me rappelle, déjà, ils avaient eu droit à une connotation internationale. C'est ce qu'ils cherchaient. Alors là, les Belges, vous malmenez vos Indiens chez vous. Oui, on leur donne qu'un milliard et demi. Bon, on ne sait pas où ils se rendent, 1,5 milliard. Et à l'époque, et toujours est-il que je me rappelle, en rentrant à Montréal, j'ai pris le haut du pavé comme animateur, parce que j'allais à contre-courant. Je me rappelle de l'ignorance des animateurs.
Est-ce que tu as été menacé, Gilles, à ce moment-là?
Oui, j'ai été menacé. J'ai reçu des balles de carabine de 30-30. Next one's gonna be in your head. Puis on postait ça au général Custer de CJMS. Général Custer, on sait que c'est un gars qui a mal fini aux États-Unis avec les Indiens. Et puis, par la suite, des boîtes d'excréments, puis des beurrages de panneaux. J'avais le droit à des panneaux. Écoutez le journal du midi. Il y en a même un peu partout dans le sud-ouest. Ils avaient beurré. Alors, ça avait été un peu assez dur et tendu, évidemment, parce que j'allais à contre-courant, puis finalement, la Chambre de commerce de Châteauguay, tellement fatiguée de cette crise après la crise, m'avait honoré, puis m'avait invité à faire un discours. Et par la suite, Paul, avec le temps, bon, les chamoyages existaient encore, mais c'était la lâcheté des nôtres. Dans le fond, c'est que le ministre de la Sécurité publique, dans le temps, sous Robert Bourassa, j'oublie son nom.
Sam Elkass.
Sam Elkass, qui avait dit, on va rentrer le bulldozer là-dedans.
Ouais.
Ben, il avait trouvé la bonne solution, parce qu'on faisait les barricades, mais il n'y a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout.
Celui, Gilles, qui avait été, disons, le plus pacifiste, rappelle-toi, c'était le ministre John Chiasha.
Oui, qui a été un véritable connivenceux avec le pouvoir britannique et anglais, surtout anglo-canadien et québécois, à leur fournir de la nourriture, pour leur ouvrir un chemin pour aller à sa maison à Dorval, comme s'il crevait de faim quand on sait que l'obésité est présente et omniprésente dans la réserve. Après ça, il y a eu le blocage du pont Mercier, puis je me rappelle, on avait ouvert une voie pour leur permettre d'aller faire un tour à Montréal. Et moi, j'avais annoncé en onde, bon, ils vont traverser bientôt. Et là, Sam Elkass m'avait accusé d'avoir provoqué de la part des gens de Ville-la-Salle de leur lancer des cailloux, ce qui était pas vrai, j'étais plus en onde, l'émission était finie depuis déjà une demi-heure. Et j'avais rien à voir là-dedans, évidemment.
Gilles,
c'était facile, on s'envoyait la balle à l'époque, puis il y avait beaucoup d'ignorance et de tension gratuite. Alors,
je m'excuse de te bousculer, Gilles, parce que je voulais conclure. La crise actuelle, elle fait mal. Il y aura peut-être jusqu'à 6 000 mises à pied chez les employés du CN. On parlait hier de pénurie dans certaines matières, comme le propane. Il est sûr d'une chose, ça va coûter beaucoup plus cher pour transporter les marchandises par camion. Et comme tu l'as dit, le ministre des Services autochtones, Marc Miller, n'est pas revenu avec de grandes annonces. Donc, comment vois-tu la conclusion? Et est-ce que Justin Trudeau devrait s'en mêler directement à titre de premier ministre?
Trudeau, il est déjà mêlé d'avance. D'abord, il est mêlé dans sa géographie, puis là, il y a des îles des Caraïbes où il veut avoir pour avoir un appui, puis il préfère jouer du bongo puis du tam-tam. C'est épouvantable de voir un comportement de premier ministre aussi juvénile que celui-là. Si, quand on a affaire à eux, ces vaches sacrées-là, qui nous démontrent qu'il y a deux justices. Ce qu'il y a de dégoûtant là-dedans, Paul, c'est que, admettons qu'on va nettoyer. Il faudrait nettoyer. Il faut les décoller. Ils sont pas des centaines, premièrement. Comment qu'il y ait des centaines? Il y a un pays, puis le pays gouverne. Il y a des lois. Des lois, c'est froid. Des lois, c'est neutre. Une loi, ça s'applique à tout le monde. Il n'y a pas une catégorie plus qu'une autre qui doit défier les lois sous prétexte qu'elle a, je sais pas, une étiquette ancestrale. Non. Alors, on déblaye ça. Et puis, on renégociera. Maurice Duplessis, qui était un vrai premier ministre, quand on a inauguré le pont en 36, il venait de reprendre le pouvoir, il avait pris les armes, eux autres, à Ville-la-Salle ou à Kanawake, et puis il avait dit, dépose les armes et on les négocie. Ils ont déposé les armes, ils ont tous rentré le panier à salade. Ben, ils sont pas capables de faire ça, de prouver qu'il y a des lois qui doivent être respectées, elles s'appliquent à tout le monde. Alors, dans ce sens, effectivement, tu le dis très bien, on est rendu peut-être à plus d'un milliard de pertes en termes d'activité économique. C'est très grave.
C'est très grave.
C'est grave pour l'approvisionnement, ne serait-ce que des animaux de ferme, par exemple.
Absolument.
Alors, on peut pas endurer ça. Et Trudeau, il serait grandement temps que le gouvernement, mais les conservateurs n'ont pas de chef. Ça serait l'occasion. Andrew Scheer a prouvé hier que les conservateurs avaient raison. C'est de déblayer ça une fois pour toutes, mais ça serait le temps justement de mettre Trudeau en minorité.
Merci beaucoup, Gilles. Merci. Au revoir.
Au plaisir.